Monique de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet et tous ses amis.
Le printemps est arrivé, les oies viennent de passer. C'est toujours aussi magnifique comme spectacle. Elles étaient au moins 200 peut-être dans le ciel de Montauban. Direction plein nord. Superbe voyage pour elles. Bon voyage à elles. Ciao.
Et salut à tous les AMG. Bon, c'est pour réagir par rapport à l'émission d'aujourd'hui, donc de vendredi sur Internet. On vit quand même une époque épique. Il y a des entreprises qui vendent des courants d'air et qui se font des chiffres d'affaires faramineux. Alors qu'il y a des pauvres mecs qui bossent et on les fout à la rue. C'est dingue, non? Au fait, pendant que j'y pense, si quelqu'un connaît une petite vieille qui a plus toute sa tête et qui a pas mal de pognon, ça m'aiderait en ce moment. Allez, merci, salut à tous.
Cher Daniel, chers AMG, à entendre les amis de Nicolas Sarkozy ces derniers jours, on se prend à penser que si nous étions à l'époque des empereurs chinois ou des pharaons égyptiens, ils seraient de ceux qui se battraient pour se faire ensevelir vivants aux côtés de leur maître. Ils jurent que jamais Nicolas n'aurait fait pression ou usé de menaces pour abuser de cette vieille Liliane. Peut-être pas. Mais je me rappelle de la définition que nous donnait ma mère quand nous étions enfants de la prostitution. C'est être gentil pour de l'argent, nous disait-elle. Je vous laisse libre de conclure.
Et vous avez entendu ? L'avocat de Nicolas Sarkozy conteste l'impartialité du juge gentil qui vient de mettre en examen notre ancien président au motif que ce juge a signé l'an passé un manifeste qui s'élève contre la corruption. Ah ah ! Tout s'explique. Ce juge règle des comptes et c'est Sarko qui trinque, lui qui avait voulu supprimer les juges d'instruction. Vous voyez certainement la logique. Un juge signe une pétition contre la corruption, c'est donc qu'il est, comment dire, tendancieux, qu'il manque d'objectivité. Il faut de toute urgence le dessaisir.
Salut l'équipe, salut les auditeurs. Voilà, juste pour dire que si vous en avez marre de la pub sur Internet, il existe une petite application qui marche sur Mozilla Firefox, ça s'appelle AdBlock Plus. Bah, ça supprime la pub sur Internet. Plus aucune bannière surgissante, plus aucune fenêtre de pub sur votre écran d'ordinateur. Donc ça s'appelle AdBlock Plus et ça bloque toutes les pubs. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, je tiens à te signaler l'existence d'un programme informatique qui permet d'empêcher complètement l'interprétation et l'analyse des données de requêtes sur Internet par les gens du marketing. C'est très simple, c'est très con, c'est un programme qui génère depuis ton ordinateur des requêtes aléatoires sur Internet en permanence, de manière à noyer complètement le poisson, c'est-à-dire que le mec qui est de l'autre côté ne puisse pas savoir si la requête qu'il reçoit est sérieuse et donc motive une action publicitaire de sa part ou de marketing, ou si c'est complètement bidon. Et ce programme est très très bien fait, il te permet de ne pas du tout te faire choper sur Internet. Bon, alors il y a un problème, c'est que si tout le monde l'achète, eh bien, ça va foutre une merde totale sur Internet. Alors je t'en parle, mais toi, s'il te plaît, ne le répète pas. Merci, au revoir, et bravo pour tes émissions.
J'ai toujours été réfractaire à Facebook. Je pense depuis longtemps beaucoup de mal de Big Brother et de toute sa famille qui règne sur le net. Mais voilà, autour de moi, famille, amis, camarades, presque tout le monde communique par Facebook. Et une semaine avant ton émission, Daniel, pour avoir accès à une vidéo en ligne, mise en ligne par une association qui m'est chère, je me suis inscrit à Facebook, avec des pincettes. Je prends un pseudo, et je décide de ne donner ni date de naissance, ni photo, ni renseignement personnel. Mais il a fallu que je donne tout de même mon adresse email. Mon inscription ayant été validée, j'ouvre mon compte pour la première fois. Et là, surprise, surprise. Facebook me présente plus de 200 personnes en me demandant d'une écriture doucereuse. Vous connaissez peut-être ces personnes? Voulez-vous les reconnaître comme amis? Et là, je comprends que quelqu'un m'a donné, que quelqu'un m'a trahi. Mon hébergeur, yahoo.com, que tu peux ajouter à la bande des quatre, sans jamais m'en demander l'autorisation, a refilé tout mon répertoire d'adresses e-mail à Facebook qui en a fait son miel. J'y retrouve des membres de ma famille, des amis, des camarades politiques, mais aussi beaucoup d'inconnus qui semblent partager les mêmes idées que moi. Mon compte est envahi de bannières socialistes de points à la rose. J'étais pétrifié.
Et voilà. C'est exactement ce que l'on vous disait pas plus tard que vendredi. Dans la basse, j'y suis, tondre les moutons et leur vendre la laine. C'est un souci qui va en grandissant. Une grande inquiétude face à l'exploitation des données personnelles sur Internet, et que ce soit nos appels téléphoniques, nos SMS, nos chats, nos recherches sur Google, nos photos sur Facebook. Chaque jour, nous communiquons des données sur nos fréquentations, nos opinions, nos habitudes, nos trouilles, nos désirs et nos pensées intimes, sans nous soucier de ce qu'elles deviennent. Or, ces informations privées sont enregistrées, stockées et peuvent facilement être analysées et exploitées, comme cet auditeur vient de nous le dire. Il n'est pas le seul, évidemment. Ça nous arrive fréquemment à tous, à notre insu, bien évidemment. On ne s'en rend pas forcément compte. À l'heure où nous échangeons de plus en plus via Internet, des systèmes de surveillance globaux se déploient pour tirer profit du nouvel or noir du 21e siècle, les données personnelles. Sauf que là, pour une fois, c'est nous-mêmes qui donnons la laine, gentiment on donne la laine qu'on a sur le dos au grand méchant loup qui les exploite et va nous les revendre. Ce loup s'appelle GAFA. GAFA. GAFA, G comme Google, A comme Apple, F comme Facebook et A comme Amazon. GAFA. Quatre sociétés énormes et qui grossissent d'heure en heure d'ici à 16 heures. GAFA aura encore grossi et qui repose sur des législations états-uniennes. Nos petites législations françaises, il faudrait les mettre un petit peu en coordination, et européenne également. C'est un enjeu aussi très important face à l'exploitation des données personnelles. Quelles sont les chances des juridictions, de la loi, pour essayer de, face à ce monstre, de limiter la casse, des associations, on voit là des particuliers, évidemment des hackers, des chercheurs de toutes sortes, essayent de mettre un rempart, des filtres, des défenses. C'est une guerre extrêmement importante qui se livre là et dont nous sommes de plus en plus soucieux, de plus en plus conscients, de plus en plus méfiants aussi. Après les années d'utopie Internet, voici peut-être venu le temps de la dystopie, c'est-à-dire le contraire de l'utopie. Comment préserver tout ce que Internet apporte de vertueuses opportunités, de connaissances, d'épanouissement, de communication, etc. C'est un énorme enjeu et on est là tout petit comme des grains de sable au pied d'une énorme falaise. Mais ça ne nous fait pas peur et on va en parler jusqu'à 16 heures dans la basse. Si j'y suis auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
En attendant que l'imagination soit au pouvoir, autant se servir de l'imagination pour en faire un contre-pouvoir. En Espagne, le taux de TVA sur les produits culturels est passé de 8 à 21%, rien que ça. Et donc, les organisateurs du festival de théâtre de Figueras ont décidé de ne pas vendre des places de théâtre à 21%, mais des carottes à quelques pourcents de TVA. Et avec chaque carotte, qui coûte 12 euros, ils offrent une place de théâtre.
Oui, salut Daniel, je viens d'écouter ton émission et je trouve un peu dommage que tu n'aies pas parlé du livre de Cédric Biagini, L'emprise numérique, ou comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies. C'est un petit livre qui fait 400 pages et qui est tout à fait intéressant, qui apprend beaucoup de choses aux gens. Ou éventuellement, l'autre livre, Facebook, Anatomie d'une chimère, de Julien Azam, et ça a paru aux éditions CMDE. Voilà, merci.
J'ai vu s'effondrer Manhattan, entendu le God Save the Queen devant les grilles de Buckingham, entrevu le cul de ma voisine, mais jamais dans mon existence je n'ai eu plus grande émotion que que celle d'être mis en présence d'un quignaman pur beurre breton. Cet ami du cholestérol et du diabète réuni, plus beau que les profiteroles, plus gras qu'une moine dans le cambouis, vous fera aimer la Bretagne malgré les ouin-ouin des bignous, les monts d'Arrée pour seule montagne et les calvaires un peu partout. Si un jour vos pas vous y mènent, surtout ne vous arrêtez pas aux premiers menhirs ou dolmens, pitoyables pierres en tas, mais repérez une boulangère à Corte, et tant pis pour la ligne, dites-lui, est-ce une chimère? Je voudrais goûter votre couigne. Salut.
The surveillance that is now occurring to everyone in the West and in some developing countries as well.
Julian Assange
would have been undreamt of even in the greatest fantasy of Stasi.
Même dans les plus grands fantasmes des généraux de la Stasi, on n'aurait jamais pu imaginer une telle surveillance possible comme il existe aujourd'hui.
Nous sommes là pour faire des affaires, on ne s'en cache pas. C'est du business to business sur Facebook. On a créé un outil qui permet de monitorer toutes ces pages et l'une des fonctions de cet outil.
Ça veut dire quoi monitorer ?
Monitorer, ça veut dire surveiller. Ça veut dire surveiller.
As always, information is power.
Comme toujours, l'information est le pouvoir.
And the greatest theft of power in history has occurred.
Et le plus grand vol de pouvoir dans l'histoire.
Is occurring.
Il a lieu en ce moment.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis avec Anaël Verzo. Je lèche, je lâche et je lynche.
On est à Paris, dans le 3e arrondissement, et on est là parce que on va essayer de comprendre. Comment est-ce que Laure Manaudou, par exemple, notre ex-championne de natation, a réussi à faire effacer des photos érotiques qui avaient été postées par son ancien petit ami sur Internet. Mais aussi, comment est-ce que Jean-Charles Naouri, le PDG de Casino, parvient à faire en sorte qu'il n'y ait aucune photo de lui sur Internet ? Comment est-ce que des groupes comme Danone ou Nestlé parviennent à faire en sorte qu'il n'y ait presque que des articles positifs sur eux, malgré des critiques très virulentes qui avaient été faites par exemple contre le groupe Nestlé par Greenpeace? Comment nettoyer des informations sur Internet? Comment se refaire une image? Et combien ça coûte? On va rencontrer une entreprise, on y va là, qui s'appelle Squad Réputation et qui s'occupe de tout ça.
Bonjour.
Donc là, on vient de rentrer dans un bureau et j'attends dans la salle d'attente.
D'accord, merci.
Là, sur ma droite, il y a un grand panneau avec écrit Réputation Squad. Stratège en réputation, réputation corporate, e-réputation, réputation des personnalités, veille et audit, social media, communication de crise et suppression de contenu.
Il faut quelques secondes sur Internet pour salir un homme à jamais. Vous avez le choix. Pédophilie, antisémitisme, harcèlement... sexuel, harcèlement moral, très bien. Et caché derrière votre écran, petit délateur anonyme, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche « publier ». Et c'est le buzz. Les Français ont adressé 5 millions de lettres anonymes de dénonciation à la police allemande durant la dernière guerre. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui ce que cela donnerait avec Internet ? La toile est le paradis du mouchard, du i-mouchard, comme du i-espion. Et pour toujours, Fini la bonne vieille calomnie, fini la diffamation que le temps efface. Internet, c'est pour toujours. Internet, c'est l'hypermnésie. Dans 5 siècles, on saura toujours que Findus avait mis du cheval dans ses lasagnes et que la maîtresse de DSK le voyait comme un cochon. Aujourd'hui, Findus paye des fortunes pour faire repeindre son image et DSK fait appel aux meilleurs spécialistes de la irréputation pour revenir à ces temps heureux où l'on pouvait se procurer un t-shirt Yes, oui, Can, col rond, 100% coton, pour 14,95€. La irréputation, c'est un boulot plein d'avenir. Jadis, au temps de Staline, on effaçait de la photo officielle celui qui n'avait plus la cote. Aujourd'hui, on efface, on maquille, mais c'est toujours une affaire d'image. Je lèche, je lâche, je lynche.
J'ai une vie en mousse, mais je m'en bats les clous, oui, comme le CAC 40 et Rachida Dati. Ce n'est qu'une seule envie, c'est lâcher des kikous, des kikous, des kikous, des kikous. On retrouve la gueule partout sur Google, la gueule. Je suis le roi, mais je n'ai pas d'emploi. Alors je me nourris au kebab, mais je m'en bats les glaouis, les glaouis, les glaouis.
Yo, bienvenue chez les geeks. J'ai 20 millions de connexions par jour sur mon profil. J'ai uploadé une sextape de Barack Obama avec Lord Manodou. Et si t'es pas OP, je te lâche un whiz pour commencer. J'enchaîne avec un com sur ton super wall, ton ultra wall, ton giga wall, ton Pascal wall. JavaScript, je danse le JavaScript.
JavaScript, il danse le JavaScript.
Je relis une potato à une autre scrimi de luxe par câble USB. Ça me donne un débit de 56 kilos chips. Et je contrôle tous les serveurs proxy. Et je prends mon petit déj sur la Wii. J'ai jailbreaké mon iPhone en mode 2.2.4.5.3. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent.
Je fais le buzz sur tous les écrans plasma. Je suis le roi, mais je n'ai pas d'emploi.
On est avec Albéric Guigou.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes le cofondateur de Réputation Squad, c'est ça?
Absolument. Alors on a créé Réputation Squad en 2009, donc ça a plutôt bien fonctionné. On s'est aperçu que cette intuition de l'enjeu de la réputation sur Internet était une réalité et que ça concernait de plus en plus de gens, puisqu'on travaille pour aussi bien pour des particuliers, parce que ça concerne tout le monde, que des personnalités ou encore des entreprises. Alors, sur les personnalités, on rentre sur des situations qui sont très différentes de la personne lambda. Ce qui est intéressant pour une personnalité, c'est de savoir tourner la page et de rendre d'autres éléments de leur parcours plus visibles. Mais pas forcément de mener la chasse, sauf cas très grave, ce qui peut arriver, à toutes les traces de ce qui leur déplaît sur Internet. Parce qu'il y a des cas très graves. Par exemple, on peut viser les enfants de quelqu'un, où on dévoile des informations personnelles, privées, très impliquantes. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut viser la suppression.
Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de créer des sites Internet ou des blogs pour noyer l'information?
Ah oui, bien sûr. Nous incitons nos clients particuliers à avoir un site, à avoir un blog, parfois plusieurs, sur plusieurs thématiques, parce que oui, il faut qu'ils fassent reculer ce qui les met en difficulté.
Combien ça me coûte de tout enlever?
C'est-à-dire qu'il y a une fourchette, par contre, en termes de coûts sur les particuliers, qui est en général entre quelques centaines d'euros et... Pour les cas les plus lourds, là on parle de monsieur, madame, tout le monde, c'est aux environ 10 000 euros.
Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour
oui,
de l'endroit?
Oui, ouais. Mais on va changer d'étage plutôt.
Voilà, donc là on est rentré dans une salle avec une dizaine de personnes qui travaillent devant des ordinateurs.
En fait, c'est à cet étage plutôt qu'il s'occupe des individus, des particuliers. Quand quelqu'un est diffamé, ce genre de choses, de gérer ces situations-là Et ça, c'est quelque chose qui est en hausse, c'est la diffusion de données personnelles. Que ce soit par le biais de hacking éventuellement, ou le fait que les gens ne savent plus et qu'ils déposent sans s'en rendre compte des données de ci, de là, et qu'ils n'arrivent plus à les maîtriser. Surtout que l'on voit aux États-Unis où ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. Il y a beaucoup de sites qui agrègent toutes ces données personnelles avec un très haut niveau de détail. Donc on va arriver à avoir une sorte de profil de vous aussi bien personnel que patrimonial. On va savoir exactement où vous habitez, ça va mettre la valeur estimée de votre maison, ça va mettre la composition ethnique de votre quartier, ça va mettre est-ce que vous êtes divorcé. Si vous êtes divorcé, vous allez retrouver le jugement disponible en ligne. Et il y a certaines sociétés comme ça qui commencent à s'intéresser au marché européen et qui font parfois des sites qui sont illégaux ou à la frontière de la légalité. Et qui récupèrent des données qu'elles viennent d'institutions tout ça, et qui les agrègent d'un coup. Et c'est le fait d'agréger toutes ces données qui peut poser un problème, alors que lorsqu'elles étaient éparses, ça ne vous dérangeait pas.
Combien de demandes vous avez en moyenne par jour ?
Une dizaine à peu près.
Ah. Mmh. Et c'est en augmentation ?
Oui, c'est en augmentation.
Ah, c'est en augmentation ?
Ouais, ouais. Il y a des sondages qui ont été faits récemment et les gens sont de plus en plus conscients de ces enjeux-là. Donc ils le gèrent aussi de plus en plus eux-mêmes.
Trois salariés ont payé cher leur discussion sur Facebook.
France 24.
Pour avoir critiqué leur hiérarchie sur une page du réseau social, ils ont été licenciés.
19 novembre 2010.
Licenciement confirmé par les prud'hommes ce matin. Les juges ont estimé que par le mode d'accès choisi, cette page était susceptible d'être lue par des personnes extérieures à l'entreprise, nuisant à son image. Décision inadmissible pour l'avocat des salariés.
Le conseil de prud'homme décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire était fondée, il a reconnu qu'on pouvait effectivement utiliser des propos tenus sur Facebook à l'appui d'un licenciement, c'est-à-dire en violation du respect de la vie privée, des correspondances privées et des discussions privées plus largement.
Tout est parti de quelques mots tapotés sur un clavier d'ordinateur, un samedi soir de mai 2008. Sur Facebook, les trois collègues, alors en repos, se plaignent de leur hiérarchie. Jean-Pierre ironise et se félicite d'avoir intégré le club des néfastes. Sa collègue l'accueille. « Bienvenue au club », écrit-elle. Mais voilà, au même moment, un quatrième collègue connecté découvre la discussion, s'empresse d'en faire une copie et la transmet à la direction. Dénoncés, les trois salariés sont licenciés peu après.
Une histoire parmi beaucoup d'autres, des cas différents les uns des autres, des pièges très nombreux, et parfois, c'est la réputation qui trinque. Alors autrefois, il y avait la simple diffamation, la calomnie, et on pouvait se défendre contre ça. On peut toujours se défendre contre la diffamation. Les lois, évidemment, n'ont pas changé et s'appliquent au web, à Internet. Il y a un phénomène nouveau, c'est l'hypermnésie. C'est-à-dire que ça reste, une fois que vous êtes calomnié, une fois que vous êtes diffamé, ça restera pour les siècles des siècles. Sur Internet, on saura que vous avez commis telle faute, tel crime, telle erreur, éventuellement. Donc on peut comprendre que certains essayent de se débarrasser de cette tâche. Je pense accessoirement au fameux livre de Philip Roth qui n'a pas un rapport avec Internet mais qui a un rapport avec l'obsession de la mauvaise réputation. Et donc on se tourne à ce moment-là, il y a ce nouveau boulot qui est la e-réputation, qu'on appelle aussi la web-réputation, la cyber-réputation, et qui vise à intervenir dans le cas de particuliers qui ont été offensés, calomniés, mais il y a aussi évidemment ceux qui ont commis effectivement des délits, et c'est ce qui se répand, ce que j'appelle les e-mouchards adorent répandre ça sur la toile, et même si c'est fondé, les proportions peuvent être là aussi énormes. Là, le particulier ne sait pas comment faire et il se tournera vers ces nouvelles entreprises qui sont florissantes, qui marchent très bien et qui essayent, alors par des tas de moyens différents, d'atténuer. Vous pouvez aller voir sur certains sites de certaines personnalités bien connues, vous allez voir que la première page de Google, il n'y a pas grand-chose, alors que vous savez très bien, tout le monde sait que celui-là a fait ceci, cela, il est célèbre pour ça, ou celle-là a commis tel ou tel abus. Mais vous verrez que la page, la première page en tout cas, est absolument clean, qu'on parle d'autre chose, des choses agréables sur cette personne. C'est que les boîtes de e-réputation sont passées par là et par des techniques de noyade, des techniques qui vont nous expliquer. Voilà. Donc, mais pour cela, il faut avoir des moyens. Donc, ceux qui ont une mauvaise réputation, qui n'ont pas de moyens, ben, ils resteront comme ça, cloués sur la porte. Et puis, les autres, eh bien, pourront s'en échapper. C'est absolument imprévisible. Alors, nous, on a pensé, avec l'équipe de Là-bas, si j'y suis, à un bon boulot que vous pouvez faire si vous avez des difficultés à trouver du boulot. C'est prendre le modèle du kid. Vous vous souvenez de ce film avec Chaplin, le gosse lance des pavés sur les vitrines, et l'autre arrive, Charlot arrive, c'est le vitrier. Alors vous pouvez faire ça, vous salopez la réputation de quelqu'un sur le net, vous essayez de faire du buzz, le confrère, le collègue, le compère qui fait dans l'irréputation, lui répare et lui nettoie sa mauvaise réputation. C'est peut-être un boulot d'avenir, un job d'avenir, pensez-y.
Pardon, je vous précède. Entrez, entrez.
Merci. Il y a une table de ping-pong là dans l'entrée. Hein.
Il y a une table de ping-pong dans l'entrée, oui. On a hésité avec le baby-foot, mais le baby-foot c'était. La table de ping-pong c'est plus collectif. Entrez, entrez.
C'est des beaux bureaux, hein.
C'est très sympa ici. On est là depuis un an. Et c'est très agréable d'avoir cette grande maison sur trois niveaux avec une cour. C'est important pour l'équipe. Hein. À la fois pour les candidats qu'on reçoit, puis pour retenir les gens aussi, c'est vrai. C'est un facteur de fidélisation.
Alors Emmanuel de Saint-Bon, vous êtes le directeur de Roxane Compagnie.
Oui, absolument. Le directeur et le fondateur, c'est une agence qui existe depuis 5 ans maintenant, presque 5 ans, et qui est composée de 22 personnes. On s'occupe de l'irréputation des entreprises, on s'occupe, oui, en partie de l'irréputation des entreprises.
Alors vous travaillez avec des clients qui sont des entreprises assez importantes. Hein. J'ai vu sur votre site internet, vous avez des clients comme Nokia, BFM, Best Western, Hôtel Ibis, Formule 1, Opinionway, voilà, ouais. Novotel, absolument. PayPal, Croissance Plus.
Oui, absolument. Oui, c'est plutôt des grandes marques pour lesquelles on intervient. Ces marques appartiennent généralement soit au domaine de l'hôtellerie, mais on intervient aussi pour les banques, on intervient pour des entreprises de services au sens large. Vous avez cité PayPal, par exemple.
Ces entreprises-là, ce qu'elles vous demandent, c'est d'avoir la meilleure image possible sur Internet.
Oui, ce qu'elles nous demandent, c'est d'abord de savoir ce qui se passe sur Internet à leur encontre, et parfois de réagir vite en cas de buzz négatif.
Ça revient à faire la communication des entreprises.
Là, en fait, vous le dites très bien, les activités qu'on mène pour les réseaux sociaux sont très très liées à la communication. Ça devient même central, hein, puisque aujourd'hui, il est difficilement concevable de bâtir une stratégie de communication sans mettre le social au centre.
Moi, par exemple, je suis l'entreprise Danone et il y a beaucoup d'articles de journaux qui disent « oui, Danone va licencier ». Ça ternit mon image. Est-ce que je peux faire appel à vous ? Et comment ça se passe ?
Oui, vous pouvez faire appel à nous. Comment ça se passe ? Ben, de manière rigoureuse et logique, avec des outils de veille. Il existe de très nombreux outils aujourd'hui qui permettent de crawler, pardon pour le terme, de scanner, si j'ose dire, les blogs, les forums, les comptes de microblogging, les pages de réseaux sociaux pour rassembler l'information. Et puis, en fonction de ce que vous trouvez, eh bien, vous mettez en œuvre un plan pour justement atténuer, voire retourner cette situation.
Donc vous allez répondre par exemple sur les forums qui attaquent Danone, vous allez répondre comme si vous étiez un utilisateur lambda.
Pas tout à fait. Généralement, quand nous intervenons sur les forums, c'est ce que nous faisons par exemple pour le groupe Accor, nous intervenons en incarnant la personnalité d'Accor, soit en disant que nous sommes une personne qui travaillons pour le compte d'Accor, soit comme on l'a fait sur un forum de grands voyageurs qui s'appelle Fly a Talk, nous avons créé un personnage virtuel qui s'appelle Accor Concierge, qui est animé par nous et qui répond justement aux demandes et parfois aux critiques des internautes. Dans la majorité des cas, nous intervenons avec des gens qui sont des Roxaniens, si je puis dire, des gens qui travaillent chez Roxane et qui agissent pour telle ou telle marque, mais parfois on essaye de faire intervenir une personnalité qui n'a pas de rapport particulier avec la marque, mais qui peut être amenée ponctuellement à prendre la parole en faveur de la marque parce qu'elle a un rôle, parce qu'elle est journaliste, parce qu'elle est sportive, parce qu'elle est star de télé. Ça donne parfois de bons résultats, en effet, ouais. Il y a une troisième chose que certaines marques font, c'est d'avoir des actions en référencement naturel.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, quand vous êtes confronté à une difficulté, assez vite, quand on tape le nom de votre marque ou le nom de votre marque espace problème ou arnaque ou affaire, vous allez avoir sur Google des contenus qui ne sont pas du tout ceux que vous souhaiteriez être. Et en fait, l'idée, c'est de leur donner une moindre visibilité. Comment fait-on ? L'objectif est de faire passer ces contenus sur la page 2 de Google. On sait qu'en France, par exemple, je crois que c'est 96 ou 97% des internautes qui restent sur la page 1. Si vous parvenez à faire passer ces contenus sur la page 2, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot. Comment est-ce qu'on fait ? On produit un certain nombre de contenus textuels, vidéos, etc., qui sont bénéfiques pour la marque. Donc ce sont des techniques qui sont légales, qui sont un peu de la bidouille, mais qui ont prouvé leur efficacité.
Je suis Danone, toujours.
Oui.
Combien est-ce que je vous paye ?
Les prestations qu'on peut offrir dans ce domaine, et ça va être une fourchette assez large, vont de quelques dizaines de milliers d'euros à, ça peut être beaucoup plus, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000 euros s'il s'agit de faire une action sur le long terme, avec production de contenu, avec développement d'une communauté, et puis avec des rendus synthétiques réguliers auprès de la marque. L'actualité est très riche actuellement avec le sujet sur la viande de cheval, par exemple. Plusieurs entreprises, dont Findus et dont Spanghero, sont mises en cause. Et la marque Findus, avec, je crois, un certain succès, a mis en œuvre avec une agence spécialisée toute une stratégie pour justement faire en sorte que son nom soit le moins possible associé à cette affaire de viande de cheval.
Vous, votre travail là-dedans, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'occurrences Findus viande de cheval sur Internet.
Oui, en l'occurrence, la stratégie qu'a retenue Findus, c'est de faire en sorte que le nom de Findus soit le moins souvent associé à cette affaire de viande de cheval. Donc la stratégie pour laquelle ils ont été, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affaire Findus, en l'occurrence. Et ce qui me fait dire qu'ils réussissent plutôt, c'est que plus récemment, c'est plus d'une société concurrente, en l'occurrence Spanghero, dont on parle actuellement.
Tout ça, ça génère pas mal d'argent.
Nous, c'est très simple. On a fait cette année un chiffre d'affaires d'1,5 million. On est en croissance de 27%. Et on prévoit pour 2013 de faire un chiffre d'affaires d'1,8 million. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette histoire d'échange, de dialogue, d'écoute. C'est l'essentiel de notre business.
Le hachis parmentier Findus. Parce qu'il faut du temps à la viande de pot-au-feu. Le hachis parmentier, je l'ai fait.
Heureusement, il y a Findus.
Findus.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette histoire d'échange, de dialogue, d'écoute. C'est l'essentiel de notre business.
Ah bah ça, ouais. Ouais.
Et si on regarde là sur votre ordinateur, on peut se connecter à Internet et puis regarder une des entreprises avec laquelle vous avez travaillé pour voir ce que donne sa première page Google, par exemple.
J'ai pas fait ça, oui, mais là, vous me prenez un peu de cours. Alors, pour qui on... Là, vous me prenez un petit peu de cours. Non, ce qu'on peut faire, c'est d'aller, par exemple... Il y a une chose très intéressante qu'on a faite pour une banque qui s'appelle la banque BFM, et qui est une filiale de la Société Générale. Ça illustre d'ailleurs une chose intéressante qui est le fait que de plus en plus la demande concerne aussi le B2B, c'est-à-dire l'univers des professionnels.
Le B2B ?
Oui, le B2B, le business to business. Ça ne concerne pas seulement les particuliers. Cette banque, par statut, ne vise que des fonctionnaires comme clients. Donc ils ont des clients dans la fonction publique, santé, éducation, etc. etc. Sur la cible des infirmières en particulier, quand on les a rencontrés il y a 3 ans, Ils nous ont dit, voilà, on constate que les moyens traditionnels pour toucher cette cible d'infirmières s'essoufflent un petit peu, la presse pro, les salons, etc. Ils nous ont demandé s'il y avait une solution sur Facebook et si on pouvait développer quelque chose. On a développé pour eux une page Facebook et on a mis en place une politique éditoriale pour intéresser véritablement les infirmières. C'est-à-dire que c'est bien une page qui officiellement est la page d'une banque, mais le plus clair du temps, ce qu'on y raconte, ce sont des histoires qui vont concerner les infirmières. Le résultat, c'est qu'en 2 ans, on a eu une communauté extrêmement engagée. On a maintenant 25 000 infirmières pur sucre qui, tous les jours, discutent sur cette page et souvent discutent entre elles sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et on a su, finalement, pénétrer cette communauté en préparant ainsi le terrain pour que, de temps en temps, on diffuse des offres promotionnelles ou des offres de lancement de la part de la banque, car oui, on est là aussi pour faire du business.
Alors là, on voit donc cette page Facebook. La photo principale, c'est des infirmières. Alors, infirmières qui ont une tenue rose, et puis il y a le médecin avec sa tenue bleue. Il y a un petit logo BFM, juste en dessous de la photo principale.
Oui, oui.
Vous posez des questions sur l'offre BFM, pour vos études en IFSI, financement de votre installation, solution d'épargne, rendez-vous sur l'onglet BFM pour en savoir plus.
Alors voilà typiquement un exemple d'une des publications qui, elle, s'adresse bien à des infirmières, mais qui sont centrées sur les offres promotionnelles de la banque. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, c'est pas non plus une dimension altruiste. Nous sommes là pour faire des affaires, on ne s'en cache pas.
C'est le business to business sur Facebook.
C'est du business to business sur Facebook, avec évidemment tout le côté relationnel. On a créé pour notre part, je peux le citer, on a créé un outil qui permet de monitorer toutes ces pages. Et l'une des fonctions de cet outil...
Ça veut dire quoi, monitorer ?
Monitorer, ça veut dire surveiller et prendre les meilleures actions en fonction de ce qu'on voit. Ça veut dire surveiller. Et l'une des fonctions de cette plateforme permet d'isoler instantanément, sur une période donnée, les gens... Donc ici, les infirmières qui vont être les plus actives, celles qui ont le plus commenté, celles qui ont le plus partagé, celles qui ont le plus posé de questions.
Et après, qu'est-ce que vous faites de ça ?
Ce sont des gens que nous soignons, avec qui nous avons établi des liens directs, justement pour, d'une part, mieux les connaître et essayer de coller, de satisfaire le plus possible leurs besoins et leurs désirs.
Et là, par exemple, dans le cas justement de la banque BFM, combien est-ce que la banque BFM vous a payé pour cette promotion sur Facebook ?
Environ à 100 000 euros.
Par an ?
Par an, exactement.
Tu vois ta gueule à la télé, dans les journaux, c'est pas possible, à la radio y a pas d'image. Alors tu cherches la faille, tu cherches le courage de leur montrer que toi aussi tu vaux quelque chose. Toi aussi tu sais chanter, toi aussi tu sais danser, toi aussi tu sais t'habiller avec des vêtements classe. L'internet est coupé, comment tu vas faire pour buzzer une fois que t'appelles la hotline? Allô madame, comment ça s'est cassé? Ça y est, j'ai une idée. Faut que j'aille prendre un café dans un cybercafé. Bonne idée, t'es en quête de buzz. Wow, wow, wow. Faut que ça buzz. Wow, wow, wow. Toujours plus de buzz. Wow, wow, wow. Sinon tu vas rater ta vie. B-U-Z Z, les 4 lettres de l'alphabet. B, U, Z, Z, les 4 lettres de l'alphabet.
Un an après la présentation d'un projet de réforme de la législation sur la protection des données, le sujet suscite encore des débats intenses. Un accord semble difficile à trouver. L'un des premiers objectifs, permettre à tout un chacun de mieux maîtriser ses renseignements personnels laissés sur Internet et s'attaquer à des difficultés de plus en plus importantes comme l'usurpation d'identité.
Euronews, 7 janvier 2013.
À l'heure où nos vies sont de plus en plus connectées, le spectre de Big Brother n'est jamais loin. Sommes-nous conscients des conséquences à long terme de notre présence sur le web ? Les responsables politiques sont eux aussi dans la ligne de mire. Nombre d'utilisateurs réclament qu'ils agissent, qu'ils trouvent des solutions pratiques, réalistes et applicables.
Certains disent qu'il revient à chacun de se protéger, qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement ou sur les lois, qu'il faut simplement être plus prudent quand on utilise Internet.
Je ne suis pas d'accord parce que c'est impossible. On ne peut pas se protéger.
Si certaines personnes ou certaines entreprises veulent faire un mauvais usage de nos informations, elles peuvent le faire d'après moi. C'est donc impossible pour nous de nous protéger à 100%.
On est sur le périphérique, à la porte d'Italie, dans le sud de Paris, à la frontière entre Paris et le Kremlin Bicêtre. Et on est un peu obligé de traverser ce périphérique pour aller rencontrer des hackers. Des hackers qui sont des bidouilleurs de l'Internet, des ordinateurs, et qui sont un endroit pas du tout secret. D'ailleurs, je vais vous dire où on va. On va dans une école qui forme des experts en informatique qui s'appelle l'Epitech. Bonjour. Donc Rémi Morisseau, c'est le directeur du laboratoire de sécurité, et Lucas, qui est donc l'étudiant en deuxième année Epitech Lyon. Nous y voilà. Et alors là, il y a votre élève hein, qui est devant son écran d'ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait là ?
Donc là, c'est un élève de deuxième année qui va nous montrer comment est-ce qu'il est capable de récupérer toutes les informations que je fais passer entre mon téléphone et Internet.
D'accord. Et si on prend mon téléphone, par exemple ?
Ça peut être avec votre téléphone, ça marchera très bien aussi.
Ah bon, on va essayer avec le mien. J'ai cliqué sur Wi-Fi, Epitech Open Wi-Fi. Donc là, je suis connecté sur votre réseau hein, d'Internet.
Si vous allez sur Internet, on va pouvoir voir tout ce qui circule par votre téléphone.
Je vais sur Internet.
iPhone de Anaël Verzo, c'est bien votre téléphone ?
Bah oui, je pense. Hein. En tout cas, c'est mon nom. Voilà, j'ai eu accès à un site Internet.
Et donc là, on voit sur l'écran
Oula.
Qui s'affiche exactement ce que vous avez demandé.
Alors, et qu'est-ce qui s'affiche ?
Coût, vente, rein.
J'ai demandé combien ça coûtait de vendre un rein. Je vais aller sur un autre site. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. 15M anniversaire Espagne. Ouais, c'est le site sur lequel je suis allée. Oui, ça fonctionne très bien. Donc en fait, à chaque fois que je me connecte sur un site, vous voyez exactement sur quel site je suis allée. Quoi.
Exactement. Donc on peut savoir exactement sur quel site vous allez. Mais on pourrait, en allant plus loin, modifier les sites web que vous allez voir. Donc avant que vous receviez la page, on pourrait modifier cette page pour modifier l'information que vous allez recevoir.
Vous pouvez me faire aller sur un autre site.
Page. Bah, essayez maintenant d'aller sur une page web, sur une nouvelle page web.
D'accord. Bah. Là, j'ai voulu aller sur le site de là-bas si j'y suis. Et en fait, on m'indique, attention, vous êtes sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. Êtes-vous conscient des risques que vous prenez ? Êtes-vous sûr que ce réseau n'est pas espionné par quelqu'un de malveillant ? Ah, c'est incroyable, d'accord. Et combien de temps est-ce qu'il vous faut pour récupérer toutes les informations d'un téléphone portable ?
S'il est connecté en Wi-Fi, qu'il a une bonne connexion Internet, on peut récupérer l'intégralité des données d'un téléphone sans être branché au téléphone en une nuit.
En une nuit ?
Exactement. Donc pour un professionnel qui, par exemple, passe une nuit d'hôtel, va se connecter à un réseau qui est non sécurisé ou alors à installer une application qui est malveillante, en une nuit, l'intégralité des données peuvent être récupérées. L'intégralité, ça veut dire l'ensemble des fichiers qu'il a stockés sur le téléphone, l'ensemble des photos qu'il aurait prises dans le téléphone, l'ensemble de son carnet d'adresses, l'historique de toutes les communications qu'il a eues, l'intégralité des mails, tout ce genre de données.
C'est une publicité dont Sony se serait bien passé. Son réseau de jeux en ligne sur PlayStation a été piraté. Les données personnelles de 75 millions d'utilisateurs dans le monde auraient été volées. On évoque même des vols de numéros de cartes bleues.
France 3, 27 avril 2011.
Je ne veux pas que mon numéro de carte de crédit soit piraté. Je pense que je vais arrêter de jouer avec ma console.
Dans toutes les langues, le même message, très vague. En fait, Sony a attendu 3 jours avant d'avouer le piratage de son réseau PlayStation. Les noms, adresses mail et mots de passe de 75 millions de comptes ont pu être dérobés par des hackers. Et c'est plus inquiétant pour les clients du magasin en ligne, le PlayStation Store, puisqu'ici, les données bancaires aussi ont disparu dans la nature.
Alors, protection des citoyens, protection des données personnelles, c'est évidemment une inquiétude qui va en se développant, on l'entend. Alors, pensez-vous qu'il revient à chacun de se protéger, comme certains le suggèrent, débrouillez-vous, protégez-vous, apprenez à vous en servir, etc. Ou bien pensez-vous qu'il est nécessaire d'appliquer les lois existantes, parce qu'il y en a, et deux, de légiférer en vue de protéger les usagers que nous sommes, sachant la puissance, l'énorme puissance des lobbies de GAFA. Alors, on va se tourner vers la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui est, vous le savez, une autorité administrative indépendante française, chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifié le 6 août 2004. Voilà, bien, non ? C'est formidable, ça, comme une telle commission devrait nous garantir toutes les protections possibles et imaginables. C'est fait, ils y ont pensé, nous y avons pensé, notre République et nos élus y ont pensé, donc on devrait être protégés, et je pense qu'en allant faire un tour à la CNIL, nous allons être rassurés.
On est à la CNIL avec Isabelle Falk-Pierrotin, présidente de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté.
Alors donc moi je suis Isabelle Falk-Pierrotin, je préside la CNIL depuis presque 2 ans et je suis conseiller d'État et auparavant je me suis beaucoup occupée de régulation d'Internet et du numérique.
On est là pour parler de ce qui est en train de se passer en ce moment au Parlement européen concernant la loi sur les données personnelles. Quels sont les enjeux autour de cette loi qui va être modifiée ?
Alors, effectivement, se discute actuellement au Parlement européen le cadre futur de la protection des données personnelles en Europe. Alors, ça n'est pas complètement un projet de loi, c'est en fait un projet de règlement, ce qui veut dire concrètement un texte européen qui sera immédiatement applicable, une fois qu'il sera adopté, dans 27 pays européens. Donc, vous voyez bien que c'est un enjeu considérable, parce qu'il faut être sûr que ce cadre juridique futur nous convienne. Donc, l'objectif qui a été fixé par Mme Reding, qui est à l'origine de ce texte, c'est de moderniser le cadre actuel, qui effectivement date de 1995, donc une ère pré-internet, pré-numérique, d'avoir l'objectif de créer un marché européen des données personnelles, mais tout en gardant un haut niveau de protection des citoyens. Nous pensons qu'il faut que les moteurs de recherche aient une forme de responsabilité, parce que dans le fond, c'est à travers eux souvent que l'information est disponible.
Donc Google, par exemple.
Alors des gens comme Google, bien sûr, qui se sont bien gardés d'être pris dans le texte de 1995.
Dans cette lutte, vous faites face aux lobbyistes américains, notamment du géant GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, Amazon et Facebook, qui fait 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Vous, vous avez eu l'occasion de voir ces pressions de ces lobbyistes américains.
Alors, Dieu merci, le géant GAFA n'est pas unitaire, c'est-à-dire que ce sont plusieurs sociétés qui sont aussi concurrentes et aussi concurrentes autour de la protection des données personnelles. Donc, entre elles, il y a quand même aussi la possibilité de jouer l'enjeu des données personnelles comme un enjeu de concurrence. Mais ceci étant dit, il est évident que pour tous ces acteurs, il y a beaucoup à perdre dans cette négociation et ils sont très vigilants pour que le cadre juridique européen soit le plus ouvert et le plus favorable pour leurs intérêts économiques à eux.
Est-ce que vous pensez que malgré la pression de ces lobbyistes américains, notamment, en tout cas de ces entreprises, contre ce règlement qui permettrait davantage de protection des données personnelles, est-ce que vous pensez que vous allez parvenir à faire face et à faire valoir votre position ?
C'est difficile de connaître de façon sûre le point d'aboutissement, mais moi je sens quand même monter des arguments qui vont dans notre sens, qui n'existaient pas il y a quelques mois, mais je dirais qu'au fur et à mesure que les gens prennent connaissance du texte, que par ailleurs les citoyens européens s'approprient ces enjeux, donc oui, j'ai bon espoir.
Pas de carte de transport, pas de carte de fidélité. Jean-Pierre Petit paie tout en liquide. Il aime à penser qu'il lui reste encore quelques espaces de vie, exempts de toute traçabilité.
France Info, 21 mars 2013.
Depuis 17 ans, ce quinquagénaire qui s'autodéfinit comme gauchiste est membre du collectif Souriez, vous êtes filmé. Il lutte contre l'installation des caméras de surveillance
et par extension contre toutes les empreintes visuelles ou numériques que nous laissons désormais derrière nous.
Tout ne passe pas obligatoirement par la technologie. Il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas Internet, n'ont pas le portable, n'ont pas la carte bleue, etc. Je les respecte. Quelque part, je les admire même. Je trouve que c'est une démarche qui est courageuse, intéressante. Il ne faut pas voir ça comme un sacrifice. C'est un plaisir et un jeu d'être capable d'exercer sa liberté.
Téléphone géolocalisé, carte vitale, réseaux sociaux, badge, carte bancaire, biométrie, drone. Qui peut aujourd'hui prétendre ne laisser aucune trace? Et après tout, s'interroge Jean-Pierre Petit, a-t-on encore notre libre arbitre sur la question?
Et ce qui est grave, c'est que le système il est pratiquement totalitaire, parce qu'on parlait des gens qui refusent les portables. Mais je vois dans l'affaire de Tarnac, le fait de ne pas avoir de portable, c'était être suspect. C'est la preuve que c'est un enjeu. À partir du moment où on n'accepte pas les nouvelles technologies, on est suspect de vouloir se cacher.
Voilà, excellent reportage sur France Info, sur ceux qui refusent le système, qui s'appelle « Souriez, vous êtes filmés ». Pour en savoir un peu plus sur eux, ben, on est allé sur Internet. Et on s'est renseigné de cette façon sur Internet. Et bon, vous n'êtes pas convaincu, vous dites oh, « Non, je ne veux quand même pas aller jusque-là ». Très bien. La confiance dans la CNIL, vous n'êtes pas convaincu non plus. Alors, une autre possibilité, en tous les cas une autre analyse, celle de Jérémy Zimmermann, on l'a rencontré dans nos émissions précédentes avec Julian Assange, à qui on a posé la même question sur la protection des données personnelles.
Oui.
Jérémy Zimmermann, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de la loi qui est en discussion actuellement au Parlement européen, la loi concernant la protection des données? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il s'agit d'un règlement sur la protection des données personnelles. L'idée, c'est de faire une mise à jour de la loi sur la protection des données de 1995 et de la mettre au goût du jour, c'est-à-dire au goût du jour des technologies Internet. Et donc, le texte original présenté par la Commission européenne était un texte plutôt pas mal. Mais depuis que le texte a été présenté au Parlement européen, ça fait maintenant un an que le processus est en cours, c'est un assaut sans précédent de la part de lobbyistes principalement américains. C'est les géants du web de la Silicon Valley, les Google, Amazon, Facebook, etc. C'est aussi les secteurs de la banque et de l'assurance. C'est même le gouvernement américain lui-même qui sont dans une offensive sans précédent pour empêcher l'adoption de quoi que ce soit qui ressemblerait de près ou de loin à des mesures permettant de protéger le citoyen, de protéger la vie privée, permettant de garder le contrôle de ses données personnelles face à ces entreprises monumentales qui tentent de se les accaparer pour en faire commerce. Et là, on est vraiment sur un enjeu de société. Certains disent que les données personnelles sont l'or du 21e siècle. Et le but, pour permettre à chacun d'avoir le contrôle de ses données personnelles plutôt que se faire tondre comme un mouton, serait, au contraire de ce qui est en train de se faire à Bruxelles, au Parlement européen, d'imposer des mécanismes très stricts encadrant, par exemple, le consentement qui devrait être explicite et éclairé pour chaque collecte et chaque traitement de données personnelles, de prévenir les utilisateurs quand les données fuitent, de donner à tout moment à l'utilisateur accès à ces données, possibilité de les retirer, etc., etc. Autant de propositions qui étaient esquissées dans le texte initial de la Commission européenne et qui sont en train de se faire exploser à l'obus de 50 par le Parlement européen sous influence des lobbies américains.
Quel type de pression ils font, ces lobbies américains, sur le Parlement européen ?
La pression est somme toute assez classique, mais remarquablement bien orchestrée. C'est des dizaines de lobbyistes qui vont demander rendez-vous après rendez-vous aux eurodéputés pour leur répéter 50 fois les mêmes choses, qui arrivent clé en main avec des arguments qui sont dans l'air du temps et qui plaisent, en disant voilà, si vous mettez des barrières, si vous mettez des restrictions à la collecte des données personnelles, ça va vous coûter des emplois, de la croissance, de l'innovation, vous allez tuer les pauvres petites PME, etc. C'est créer des espèces de coalitions, genre la coalition de l'innovation en Europe, où ça vous dit sur le papier que ça réunit 5000 petites PME, etc., mais qui en réalité est financée par Google et Microsoft, et en faire des dizaines comme ça, autant de faunés, qui vont tous arriver avec le même son de cloche, les mêmes arguments, les mêmes propositions d'amendements. Comme disait Goebbels, répétez 1000 fois un mensonge et vous en faites une vérité. Donc c'est cette technique-là qui est bougrement efficace. En plus, les lobbyistes talentueux, très souvent, sont soit des anciens assistants parlementaires, voire même des anciens parlementaires eux-mêmes. Donc il y a un jeu comme ça qui est très malsain, avec des interactions très très rapprochées entre des centaines de lobbyistes professionnels dont certains ont été envoyés directement de Washington depuis un an, qui ont des ressources quasiment illimitées et qui sont en permanence dans les couloirs du Parlement européen.
Conclusion, on n'est pas prêt d'être protégé sur Internet.
Alors, conclusion, une petite note d'optimisme tout de même. Là, jusqu'à présent, il y a eu 4 votes dans les commissions parlementaires qui ne faisaient que donner leur opinion à la commission principale, elle saisie au fond. Et elle votera fin mai. Là, sur ces 4 commissions qui ont donné leur avis, pour le moment, c'était catastrophique. Mais on note que sur le tout dernier vote, c'était un petit peu moins catastrophique que les précédents. Les gens avec qui j'ai parlé au Parlement européen me disaient qu'ils commençaient à recevoir des emails de citoyens concernés, qu'ils commençaient à recevoir un autre son de cloche. Il y a un espoir, si on arrive à générer une forme de débat public sur ces enjeux-là, si on arrive à créer un contexte politique dans lequel les citoyens s'impliquent et réalisent que protéger leurs données personnelles est absolument essentiel pour protéger sa vie privée, qui est une liberté fondamentale, et pour une société juste, alors peut-être que tout n'est pas perdu, et peut-être que lors du vote en commission Liberté publique, on pourrait réparer ce qui a été voté jusqu'à présent.
Merci Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net, merci Isabelle Falque-Pierrotin de la CNIL, Albéric Guigou, Emmanuel de Saint-Bon, Géraldine Cieux-Lieuzan et l'équipe pédagogique de l'école Epitech. On vous l'avait bien dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Je lèche, je lâche, je lâche, c'était un reportage d'Anaël Verzo. Sur le site labat.org, vous pouvez réécouter notre série d'émissions avec Julian Assin, diffusée la semaine dernière à l'occasion de la publication chez Robert Laffont de leur livre, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont 4, Menaces sur nos libertés, comment Internet nous surveille. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis, ou sur le site la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, j'allais vous dire, allez sur la page Facebook de là-bas si j'y suis, mais j'ai sauté la ligne. À la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Sandrine Laurent, Lucie Hakoun et Franck Adhérer ont lié cette émission préparée avec Grégory Salomonovic. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dès à présent au 01 56 40 37 37.
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent « J'avais un beau ballon rouge » d'Angela de Maté.
Ça m'a toujours donné à vomir de penser à une vie normale. Ça me suffit pas, moi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, là ?
Mais ça veut dire que toi et moi, on n'est pas pareils.
Oui, bon.
Michel Didim réunit pour la première fois sur scène Richard et Romane Bourringer. Un père et une fille s'aiment, mais s'éloignent et se séparent sur fond de lutte armée dans l'Italie des années de plomb. Retrouvez « J'avais un beau ballon rouge » du 26 mars au 5 mai au Théâtre du Rond-Point, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h30 sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
On ne sait pas encore quand les banques chypriotes rouvriront. La Banque centrale de Chypre dit aujourd'hui qu'aucune décision n'a été prise pour l'instant. En fait, elles sont fermées depuis la semaine dernière. Hier soir, certains accords ont été trouvés entre les bailleurs de fonds et les autorités chypriotes. La deuxième banque du pays, Laiki, en fait les frais. Elle sera fermée et les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros seront, eux, taxés. En échange, Chypre devrait recevoir une aide de 10 milliards d'euros. Les places boursières ont salué l'accord aujourd'hui. Wall Street a fait d'ailleurs pareil cet après-midi à l'ouverture. Il a choisi un communiqué sur sa page Facebook pour s'exprimer. Nicolas Sarkozy juge aujourd'hui infondée et injuste sa mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. À aucun moment de ma vie publique, je n'ai trahi, dit-il, les devoirs de ma charge. L'ancien chef de l'État est soupçonné de s'être rendu à plusieurs reprises au domicile de l'héritière de L'Oréal pour y récupérer de l'argent liquide, argent qui aurait pu servir au financement de sa campagne en 2007. Après la Russie, l'Afrique pour le nouveau président chinois. Xi Jinping a entamé aujourd'hui une tournée sur le continent africain. Lors de sa première étape aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie, le président chinois a souhaité changer l'image de son pays. Non, il n'est pas intéressé uniquement par l'exploitation des ressources naturelles du continent. La Chine est là aussi pour aider au développement de l'Afrique. Il est au Cameroun de façon provisoire. Le président centrafricain déchu, François Bozizé, y aurait trouvé refuge, selon les autorités camerounaises aujourd'hui, avant de partir vers une autre destination. Une chose est sûre, son renversement n'est pas du tout du goût de l'Union africaine. L'UE a annoncé aujourd'hui la suspension de la participation centrafricaine. Elle a même décidé de sanctions contre 7 dirigeants de la rébellion de la Séléka, parmi eux le président autoproclamé Joto Dia. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra des consultations cet après-midi à New York sur la situation en Centrafrique. Et puis par ailleurs, de son côté également, l'Afrique du Sud, elle dénonce aujourd'hui la mort de 13 de ses soldats en Centrafrique. 200 militaires sud-africains y étaient déployés depuis janvier pour aider à restaurer la paix dans le pays. C'est bien un rat qui a causé la panne d'électricité à la centrale de Fukushima au Japon la semaine dernière. La compagnie TEPCO le confirme aujourd'hui dans un rapport enrichi de photographies. On y voit donc un rat déchiqueté dans les installations électriques. Il a fait malgré lui la jonction entre deux connecteurs et donc fait disjoncter en cascade les équipements de la centrale nucléaire. Le Conseil d'État vient de rejeter 4 recours contre le compteur électrique Linky. Ils avaient été formés par l'UFC Que Choisir, Robin des Toits, le syndicat intercommunal d'Indre-et-Loire et celui de la périphérie de Paris. Selon le Conseil d'État qui a mis sa décision en ligne aujourd'hui, il n'y a pas de risque de nature à faire obstacle au déploiement de ces compteurs électriques dits intelligents. 3 pompiers ont été grièvement brûlés aujourd'hui lors d'une explosion dans un poulailler dans la Sarthe. L'explosion s'est produite alors qu'ils tentaient d'éteindre un incendie. Et l'explosion a provoqué l'effondrement de la structure. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Jeudi, Dustin Hoffman.
You.
Et sur France Inter.
And you.
À l'occasion de la sortie de Quartet, son premier film en tant que réalisateur,
What made you stop singing?
L'acteur américain Dustin Hoffman sera l'invité de Patrick Cohen dans le 7-9 et de François Bunel à 17h dans le Grand Entretien.
Oh, I can't remember. What is it?
Jeudi, Dustin Hoffman est sur France Inter.
I'm going to say something very rude.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
France Inter.
Vous écoutez France Inter, je parlais avec Frédéric Laudéon de musique, on s'est laissé un peu emporter. C'est à vous Frédéric Laudéon.
C'est bien naturel et on vous retrouve Laetitia Gaillet à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon dimanche aussi. Et nous voici avec une musique de film. Vous savez très bien que la musique et le cinéma font très très bon ménage. Et en ce moment, sur les écrans, revient le fameux Magicien d'Oz, oui, une féerie américaine qui est née en 1939. On avait bien besoin de rêver un tout petit peu à cette époque-là, bien sûr. Donc la musique de Harold Arlen est tout à fait superbe. Elle a été un des supports du film. Elle revient maintenant de manière autonome à travers le disque. Et je vous propose d'entendre, tiré de la BO, comme on dit, la bande originale du Magicien d'Oz, d'Harold Arlen, un magnifique thème d'ouverture. Arlen a composé cette pièce-là avec Herbert Stothart. Et quant à Arlen, c'est un gamin qui était extrêmement doué. Il était né en 1905. Son véritable nom, c'était Hyman Arluck. Il était né à Buffalo, fils d'un Hazan, c'est-à-dire d'un chantre et pianiste juif. Il a montré dès l'enfance un exceptionnel talent musical. Adolescent, c'est pas un exemple forcément, puisqu'on parlait justement d'éducation musicale avec Laetitia Gaillet. Donc il a arrêté ses études pour constituer un orchestre et jusqu'à l'âge de 24 ans, il a gagné sa vie comme interprète et arrangeur. Et après, il s'est concentré sur la composition et a entamé une carrière absolument fructueuse, aussi bien dans la chanson que dans le cinéma. Je reviens donc au thème d'ouverture et nous revenons ensemble au thème d'ouverture du Magicien d'Oz, musique d'Harold Arlen.
Thank you.
Le thème d'ouverture du magicien d'Oz, l'ancien, le vrai, et la composition était d'Harold Arlen avec l'aide d'Herbert Stothart. Mais attention, il y a un film qui est sorti ces jours-ci, il s'appelle Le monde fantastique du magicien d'Oz, et ça n'est pas exactement la même chose. Donc on nous précise aussi qu'il faut oublier ce film musical de Victor Fleming, dont on a entendu la musique, il faut oublier ce dessin animé de notre enfance, et c'est autre chose. Maintenant, c'est un film en 3D, c'est une adaptation, c'est certainement très intéressant aussi. Et justement, adaptation, ça a toujours existé finalement, faire des variations, des périphrases ou des paraphrases, se servir des textes ou de la musique pour en faire un peu autre chose. Eh bien, Franz Schubert nous a offert des variations sur sa propre musique de la Belle Meunière, sur ses mélodies, et il a écrit donc pour la flûte et pour le piano. Donc voici la dernière de ces variations, la variation 7, Fleurs séchées, tirée de la Belle Meunière. C'est très intéressant aussi, c'est très léger, il n'y a pas évidemment de contenu poétique immédiatement, mais enfin c'est une musique joliment tournée.